you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son à soi ce soir par Jordan Fuentes. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Lily Bloom, Lucille Como et René Solis pour parler ensemble de Un instant de Jean Bellorini d'après La recherche du temps perdu, Marcel Proust au TGP, puis en tournée. Paradoxal de et par Marien Tillier au théâtre de Belleville. Lily Bloom nous dévoilera pourquoi son cœur bat pour Dans le pays d'hiver de Sylvia Costa, en ce moment à la MC93 de Bobigny, puis le petit salon de Lucille Como qui me glissera tout à l'heure mon lancement, mais la question de départ, ça pourrait être, pensez-vous qu'on aura encore envie de jouer le misanthrope en 2068? Réponse en fin d'émission. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition « L'art du chantier, construire et démolir du 16e au 21e siècle ». C'est à voir à la Cité de l'architecture jusqu'au 11 mars. Nous ouvrons cette dispute avec Un instant, présenté comme étant d'après La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Nous reviendrons sur cette dimension. C'est une mise en scène, scénographie et lumière de Jean Bellorini, en ce moment à l'affiche du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Le patron du TGP n'est certes pas le premier, mais il faut tout de même une bonne dose de culot pour s'attaquer à ce monument de la littérature. On verra comment il l'a fait. En tout cas, c'est avec Camille de la Guillonnière et Hélène Patro, tous deux sur le plateau, qu'il a adapté ce texte. Le premier cité, Camille de la Guillonnière, avait déjà fait ce même travail pour Bellorini avec un autre monstre, Rabelais. Le spectacle Paroles gelées était une très grande réussite. Ils avaient aussi remis ça avec les frères Karamazov, qui m'avait semblé, ce n'est que mon avis, moins réussi. Qu'allait-il en être cette fois?
C'était la première fois que je mangeais de la cuisine vietnamienne. C'est comme si j'en reconnaissais l'odeur, la saveur. Je n'avais pas reconnu ma mère et ma grand-mère, mais je reconnaissais le goût de leur cuisine que j'aimais.
Et vous savez, quand d'un passé ancien plus rien ne subsiste, même après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules plus frêles, mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, seule l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir.
C'est beau. C'est un poème.
Non, c'est du Proust.
Voilà pour cet extrait de Un instant, en ce moment au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Le spectacle, je donnerai les dates précises tout à l'heure, se jouera ensuite à Luxembourg, à Reims en Suisse, à Marseille, à Perpignan, à Caen, à Béziers et au Théâtre Louis Aragon. C'est René Solis qui commence à nous parler de cette nouvelle création de Jean Bellorini.
Je dirais tout de suite que c'est un spectacle sensible auquel j'ai été sensible. Et voilà, je vais expliquer un peu pourquoi. Mais vous avez rappelé, Arnaud, les précédents de Bellorini avec des grands auteurs, avec Dostoïevski,
Rabelais.
D'abord et Rabelais. Il faut préciser quand même que ce spectacle a pas du tout la même ambition. C'est un spectacle d'ordre beaucoup plus intime. Le d'après La recherche du temps perdu était évidemment très exagéré parce que, en fait, il tire un fil dans La recherche et on peut dire un seul fil auquel il se tient et dont il fait la trame de son spectacle, qui est l'affaire de la mort de la grand-mère. Alors, la grand-mère est un personnage qui revient, évidemment, dans beaucoup d'endroits dans la recherche. Et donc, il y a à la fois la mort de la grand-mère, donc le deuil, le moment de la mort qui intervient dans le spectacle, et comment il raconte après le narrateur comment il a rêvé de sa grand-mère et comment un jour il a accepté. Mais il y a aussi évidemment toutes les scènes qui sont presque des scènes plus connues, les scènes cultes de la recherche, le rapport entre le narrateur enfant et sa grand-mère, en particulier l'histoire des coups tapés contre le mur à laquelle la grand-mère répondait, et voilà leur dialogue. Alors il part de ça et il confronte deux acteurs avec ces extraits-là. Donc il a pris des extraits de la recherche qui sont tous consacrés à cette histoire de la grand-mère et du rapport à la grand-mère. Et il a confronté ça à l'histoire de, non pas des deux acteurs, mais d'Hélène Pataro, elle-même donc comédienne, d'origine vietnamienne, arrivée en France quand elle était enfant, et placée dans une ferme du Berry. Et donc, elle raconte une partie de son histoire d'enfance. Et elle raconte en particulier une scène, comment elle a finalement, toute petite, été séparée de sa mère et de sa grand-mère. Et elle raconte l'arrivée dans la ferme, un jour, de sa grand-mère. Et elle mobilise ses souvenirs d'enfance. Alors, entre ces deux histoires, on se dira quel rapport. C'est peut-être la petite faiblesse du spectacle, c'est-à-dire que le point d'ancrage de ces deux histoires, donc de l'histoire de la grand-mère dans la recherche et de l'histoire personnelle d'Hélène Pataro, est un peu forcé. C'est-à-dire qu'on a un peu de mal à accepter ce dialogue entre ces deux histoires. Alors, mais en même temps, très vite, ça bascule. C'est-à-dire que le spectacle commence par plutôt les mots d'Hélène Pataro, puis les mots de la recherche, et peu à peu, en fait, les mots de la recherche vont tout emporter, et y compris ses mots à elle, puisque finalement, elle finira par parler avec les mots de Proust, quand bien même elle évoque aussi sa propre enfance. Alors, cette trame, elle est, je trouvais, extrêmement délicatement menée. L'extrait qu'on a entendu ne rendait pas complètement justice, je trouve, au travail. Et il y a tout d'un coup quelque chose de très sensible qui je trouve, moi, qui s'est ouvert devant moi, qui m'a replongé dans ma propre lecture de la recherche, et surtout sur la façon dont la lecture de la recherche est capable de déclencher un processus d'introspection incroyable. C'est une lecture vers l'intérieur, c'est vraiment la lecture du voyage intérieur, la lecture de la recherche, et non pas la lecture de l'évasion extérieure, comme beaucoup de grands romans. Et il y a une façon comme ça de replonger dans le cœur de cette recherche, donc dans cette évocation de l'enfance, dans ce souvenir de l'enfance, de la mort et du deuil, que je trouve, au bout du compte, extrêmement réussi et très convaincant. Voilà.
Lily Bloom, premier regard sur Un instant.
Oui, alors moi, j'ai eu un instant dans cet instant qui, comment dire, a emporté toutes mes réserves sur le spectacle. C'est le moment où l'acteur Camille de la Guyonnière donc raconte cette histoire que l'on connaît tous, mais qui je trouve il fait réentendre.
On connaît ou pas?
Voilà, de cet enfant qui attend sa mère, voilà, toute cette histoire avec la mère de Proust. Et d'un seul coup, il y a eu quelque chose, une adéquation parfaite entre, voilà, sa diction, son être et les mots de Proust. Et j'ai trouvé cet instant complètement envoûtant. On dit parfois qu'il y a des acteurs qui sont claudéliens, raciniens, qui ont se parler presque naturellement. Et lui, j'ai trouvé qu'il était extraordinairement proustien à ce moment-là. Et il m'a complètement, j'ai vraiment ressenti la fièvre de lecture que j'ai pu avoir par moments en lisant Proust. Et je trouvais que cette sensation-là, au théâtre, était très agréable de retoucher cette chose très intime que l'on ressent dans la lecture solitaire et l'expérience collective du théâtre. Et c'était une ambition de Bellorini, et je trouve qu'il a parfaitement réussi cela. Alors, donc, du coup, toutes mes réserves, parce que quand la pièce s'ouvre, j'étais un petit peu ronchon, parce que on voit donc ce cimetière de chaises qui me faisait penser à Café Müller de Pina Bausch. une scénographie qui est quand même assez imposante et qui, d'un seul coup, jurait un petit peu par rapport à la beauté, dans la simplicité des mots de Proust. J'étais un peu grognon comme ça. Puis, d'un seul coup, avec le vent, avec le temps, va tout s'en aller au ferret. Commence.
Qui ouvre le spectacle.
Aïe, je me dis, vers où on part? Ça tire du côté pathétique et j'avais pas envie de ça, même si ce morceau me touche énormément, mais placé là en début de spectacle, il me faisait un petit peu peur. Puis cette histoire dépliée de l'actrice où je me disais bon, où est-ce qu'on va, je suis là pour entendre du Proust, ça m'agaçait un petit peu, avec au-delà de ça un questionnement dans sa façon de raconter l'histoire, sur même sa façon d'imiter des accents comme le ferait une personne très raciste. Enfin voilà, il y a des choses, d'ailleurs j'ai des questions qui ont été soulevées par son interprétation auxquelles je n'ai pas répondu, mais j'étais un petit peu gênée et je trouvais parfois certains silences empruntés. Et puis d'un seul coup, voilà, la magie a opéré, je me suis laissée complètement embarquer par le spectacle et je trouve qu'il a vraiment cette qualité de faire entendre Proust aussi dans sa merveilleuse simplicité, vraiment ces phrases qui se déploient dans une perfection grammaticale qui vous entraîne très loin, quoi.
Lucile Como, à présent, ce spectacle qu'on peut voir en ce moment à Saint-Denis, un instant, signé Jean Bellorini.
Oui, je suis assez d'accord avec mes camarades. Moi, j'ai eu peur, comme Lily, à la fois par ce qu'elle décore et cette chanson qui annonçait assez mal la suite. En fait, le décor, donc pour décrire, on a un grand parquet avec des chaises qui sont entassées les unes sur les autres. Donc, il y a plusieurs tas de chaises. La lumière est relativement sombre et surtout, tous les effets un peu délabrés de ce théâtre de Saint-Denis sont mis à nu. Donc, on est dans un Proust qui est l'inverse du Proust mondain, bourgeois qu'on peut imaginer quand on va voir une adaptation de La Recherche. On est en fait dans le Proust d'après le temps retrouvé, quand tout a été mis à nu, que toutes les personnes sont devenues, tous les personnages sont redevenus les personnes. Ça m'a plutôt intéressée d'emblée. Je me suis dit bon, c'est un choix. On est devant un cimetière. Toutes ces chaises sont des présences, absences absolument vides et tout le personnel est là et en même temps n'est pas là. Et on se concentre sur la grand-mère qui est en effet un fil, mais qui en fait tire absolument toute la pelote du principe de l'écriture proustienne, de la réminiscence, puisque c'est avec la figure de la grand-mère que le narrateur, en tout cas, que se met en branle la question de la mémoire et de la réminiscence par ce petit geste de refaire ses lacets de bottines. Hop, on reconvoque toute la grand-mère et toute sa personne et tout ce qu'elle a été. Donc, je trouve que ça fonctionne bien. Après, en effet, ce début un peu bancal et très artificiel de parallèle entre un texte qui a été écrit donc visiblement par Hélène Pataro sur sa propre enfance et le texte proustien m'a aussi un petit peu agacée. Et encore, je trouve que c'est pas si mal, parce que de toute façon, rentrer dans cette matière, c'est forcément artificiel, que c'est un texte qui est difficile à mettre sur une scène et à entendre de l'extérieur, tellement c'est en effet quelque chose de profondément intérieur, je pense, pour tout lecteur de Proust. Et puis après, il y a un moment pour moi où ça a basculé, et c'est bien avant le texte sur le coucher, la cruauté du coucher, parce que en effet, il est magnifique, et moi je trouve aussi que Camille de la Guyonnière le dit magnifiquement bien, alors que je suis pas du tout fan de ce comédien-là. Enfin, je l'ai vraiment découvert à cette occasion-là. Moi, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est quand lui, il la prend par le bras et il tourne, c'est-à-dire qu'on les voit tourner, passer, ben, on imagine par le derrière du théâtre et revenir par l'autre coulisse, avec du coup, comme ils sont sonorisés, le dialogue entre et le texte proustien qui continue de résonner sur la scène vide. Et là, je trouve ça extrêmement intelligent. Je trouve ça intelligent parce qu'on entend bien le texte et je trouve ça intelligent de ce que ça dit de la phrase proustienne qui tourne et retourne et fonctionne comme une spirale. Vraiment, je me suis dit, là, il y a une vraie intelligence du texte. Après, j'ai plein de problèmes qui sont des problèmes justement liés aux effets de pathos et de lyrisme. Pour moi, il y a toujours cet écueil chez Bellorini. Je trouve qu'il a une vision toujours assez naïve des textes et notamment une vision un peu mystique, un peu empreinte toujours un peu de religiosité. Et les effets de réverbération, de musique, notamment à la fin, à mon avis, sont un peu à contre-courant du texte. Et c'est dommage parce que ça invalide presque sa première hypothèse qui est assez sèche et assez simple sur le texte de Proust. Et c'est dommage parce que comme c'est un peu la dernière impression que laisse le spectacle, je trouve que ça gâche un peu sa lecture du texte proustien.
Alors, je finirais sur un accord avec vous. Alors, peut-être, du coup, Lucile Como. Moi, j'avais plutôt vécu le spectacle à l'envers, parce que je trouvais que ça commençait plutôt bien. dans ce décor simple, décati et grandiose, en même temps, une belle lumière. Et puis, ce Léo Ferré, bon, Évidemment, ça fonctionne. C'est un peu le problème de la facilité de la musique au théâtre. C'est un sujet récurrent, forcément, dans cette émission. C'est vrai que moi, comme Lily Bloom, le récit d'Hélène Pataro, il n'est pas inintéressant, mais moi, j'attendais Proust. Et puis, j'étais tout aussi gêné que vous, et sans avoir plus de réponses que vous, j'ai l'impression, par le type de jeu qui est proposé. Je trouvais curieux, mais sans comprendre pourquoi. Et pour dire aussi autre chose, et pour faire un lien avec une émission précédente, on est quand même beaucoup dans ce spectacle, et c'est pour moi un de ces gros écueils, dans ce qu'on a dit à propos du spectacle, du texte de Yasmina Reza, dans la légère d'Arthur Schopenhauer, on est pour l'essentiel dans des monologues adressés, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux personnes qui se parlent, mais il y en a une qui parle et l'autre qui écoute. Et là, je trouve qu'il y a un énorme problème d'écoute tout du long, de sa part à elle ou de sa part à lui. Et moi, j'ai trouvé qu'ils ne se rencontraient jamais, ces deux comédiens, ce qui est évidemment contre l'idée même du spectacle tel qu'il a été conçu et que vous avez si bien parlé. Et pour moi, cette promenade, alors j'entends bien la phrase proustienne qui tourne, et pour moi, c'est un artifice de plus, et ça commence déjà mal. Bref, j'ai quand même regardé ma montre quand Proust arrive vraiment, c'est quand même au bout de 50 minutes de spectacle, sur un spectacle qui fait 1h40, donc ça fait quand même un certain temps. Et là aussi, on a donc ce très long monologue adressé, et moi, j'avoue que, pour le coup, j'étais... un peu horrifié de ce qu'en faisait Camille de la Guillonnière. Alors, il y a un problème précis qui est que, en plus, dès que c'est sonorisé, je n'ai plus entendu que Fabrice Luchini, dont il a le phrasé. On peut rediffuser l'extrait si vous voulez. Dont il a le phrasé vraiment, et puis la façon de détacher la moindre syllabe. Bon, ça, c'est complètement son droit. Hein. Mais c'est vrai que quand on bloque ce genre de choses dans une représentation, c'est difficile d'en sortir. Mais moi, je trouvais. Alors bon, cette façon d'escalader les chaises pendant ce texte, je vois pas à quoi ça sert, je comprends pas les déplacements, comme je ne comprends pas non plus le changement de lumière tout du long du spectacle. On a des belles images, mais je comprends pas pourquoi cette lumière-là à ce moment-là. Mais dans ce texte, cet épisode de la recherche qui est quand même très beau, très cruel, pourquoi aller chercher des rires? Et en plus les trouver dans la salle. Moi, j'avoue que cette façon d'aller chercher le rire sur traumatisme d'enfant, ça m'a absolument dérangé.
Mais il est drôle, ce texte, à la lecture.
Je trouvais
qu'il était drôle.
Ah ouais, moi, je trouve pas drôle du tout. Mais c'est vrai que cette fin du spectacle, et je finirai là-dessus, en tout cas dans un premier temps, d'abord, la fin n'en finit pas de finir. Encore plus de musique, encore plus d'effets de lumière, un déplacement de montagne de chaises. Bon, sans doute emprunté au plasticien Kawamata, mais pour faire advenir, j'imagine, de l'émotion chez le spectateur. Et moi, c'est voilà, vous avez compris que le problème, c'est que d'émotion, je n'ai point eu. Je synthétise un peu, mais on a déjà passé beaucoup de temps et que j'aimerais vous entendre à nouveau. Vos réserves, Lily Bloom, vous en parlez tout à l'heure, mais au-delà de ce début, vous aviez l'air d'opiner un petit peu ce que je disais quand même.
Oui,
par moment.
Alors j'ai pas envie d'en rajouter parce que j'ai pas envie de rajouter des réserves parce que...
Donc je suis le seul à être le vilain, là.
Oui, je vais vous laisser être le seul vilain de l'histoire parce que je trouve que il y a vraiment une vertu au spectacle, c'est que Proust fait peur. Et je trouve que et vraiment, il y a énormément de gens qui n'osent pas s'attaquer à la recherche.
Bah, ils ont raison.
Non.
Bah si, ils ont raison.
Ah non, vous pouvez pas dire ça.
C'est un livre. Hein.
Et il y a quelque chose de... Voilà, je trouve que ce spectacle-là, cet instant, le rend accessible et c'est sa première valeur. Et moi, même le rire ne m'a pas dérangée parce que justement, ça rappelle avec ce mélange d'une histoire... d'une personne parmi nous, presque, avec cette actrice, ça nous rappelle que c'est lié à l'intime de chacun et qu'on peut chacun piocher quelque chose dans la recherche d'intime. Et il y a quelque chose qui m'a touchée. Il y avait un psychanalyste qui disait sur la recherche du temps perdu que c'était comme un linceul qu'il aurait tricoté sur le corps de sa mère, pour recouvrir le corps de sa mère. Et je trouve que la pièce touche cette idée-là, en tout cas, cet os-là de l'œuvre que l'on devine. Et devant cette pièce-là, ça, d'un seul coup, ça résonne.
René Solis.
Oui, moi, je suis... pas d'accord avec vous, Arnaud, et plutôt d'accord avec mes camarades. Comme, mais oui, sur l'humour en particulier, bien sûr qu'il y en a. Mais sur cette histoire de la mort, effectivement, je pense que je trouve qu'il y a quand même une très grande cohérence dans ce spectacle. Alors, il y a une ou deux choses, moi aussi, j'ai dit au début, je n'étais pas sûr que l'articulation entre les deux histoires fonctionnait bien. Et je comprends très bien vos réserves, Arnaud, sur les scories, le too much. Mmh. Mais quand même, y compris l'histoire de Léo Ferré au début, il sait ce qu'il fait très bien et comment dire, il balance pas du Léo Ferré comme ça.
Non, moi j'aime beaucoup aimer, moi je le dis encore.
En plus, moi j'aime aussi, évidemment, on aime, je crois tous énormément Léo Ferré et cette chanson en particulier, mais elle commence de façon presque inaudible sur un vieux tourne-disque et peu
des
à
radios.
Peu
une vieille radio.
Oui, pardon. Et donc ça crachote, on l'entend pas bien, donc c'est quand... Et peu à peu, la musique, le son monte légèrement, pas beaucoup, et la musique se nettoie et finit par envahir tout le théâtre. C'est-à-dire qu'au moment où on se dit, tiens, oui, c'est le clin d'œil au vieux Léo Ferré, non, il change quelque chose. Et donc, il y a une progression de cette histoire, cette chanson est là. Il en fait quelque chose théâtralement. Est-ce que
Et après, il reste que la voix de Léo Ferré.
Oui.
Non, mais
oui.
Il y a presque les instruments sont mis
il enlève.
Plan, oui.
Donc, ce à quoi je suis sensible aussi chez Bellorini, c'est sa capacité à faire vraiment du théâtre à tout moment. C'est-à-dire qu'il cherche des choses qui sont pas de l'ordre de l'illustratif, et fort heureusement, il tire des fils, il imagine des correspondances, et il va au bout de ses intuitions, et ce décor de cimetière, on en a parlé, que moi je trouve quand même très beau, très simple et très beau, y compris les changements de lumière, ce que vous disiez sur le linceul, c'est vous Lily qui parliez du linceul de la mer, moi je trouve effectivement que dans ce choix des chaises, alors évidemment on peut la référence à Café Muller qui est pas une mauvaise référence, mais la volonté de faire un cimetière qui est pas un cimetière de pierre justement, qui est un cimetière de bois, et le bois est une matière qui est relativement chaude, et je trouve que la façon dont les éclairages, alors que le spectacle est effectivement plutôt nocturne, donne au bois sa chaleur, c'est une très belle façon aussi d'évoquer le cimetière, une autre forme de cimetière.
Lucile Comeau, pour finir.
Non, puis je voulais juste revenir sur le texte proustien, parce que vous dites qu'il arrive assez tard, mais quand même, dans le récit que fait Hélène Pataro de son expérience d'enfant, il y a déjà plein de choses de la recherche, et notamment toute la question de la nourriture, de la saveur.
Oui, c'est pas d'une grande finesse, excusez-moi.
Bah, c'est pas forcément d'une grande finesse.
Je veux dire,
pour le coup, c'est des références à la recherche.
Mais...
C'est une lecture. On est dans une forme d'adaptation, de travail affectif sur un texte. Moi, je suis d'accord avec Lily sur le fait que je trouve ça, de toute façon, assez intelligent de ne pas être intimidé par un texte et de le prendre comme ça d'emblée à bras le corps par un biais affectif totalement assumé et par l'expérience individuelle. Je voulais juste revenir sur la question des comédiens, parce que vous parliez de rencontres, et c'est vrai que moi aussi j'ai eu cette impression qu'ils ne se rencontraient pas et qu'ils ne s'entendaient pas, et j'ai trouvé ça, mais bon, alors pour le coup je surinterprète peut-être, mais pas inintéressant aussi de voir deux acteurs de générations totalement différentes prendre en charge un texte de manière totalement différente. Ça crée une forme d'échec, en tout cas de fragilité dans le lien, qui, à mon avis, encore une fois, est intéressant sur la question de la mémoire, de la réminiscence, du passage, de la transmission, parce qu'on est vraiment dans un spectacle là-dessus. Donc, pour le coup, je trouve ça aussi intéressant, le fait que leur jeu soit si contrasté.
Tout est positif.
Non,
je ne développerai pas ici mon point de vue qui était largement minoritaire, et c'est ça qu'on a bien entendu. Par ailleurs, je loue absolument l'idée de s'attaquer au grand texte. Hein. Je dis que c'est une très grande difficulté. Et effectivement, d'écrire à l'instant d'après la recherche du temps perdu me semble un problème de communication. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Un instant, Jean Bellorini, d'après la recherche du temps perdu, c'est ce qu'il a écrit, de Marcel Proust. C'est jusqu'au 9 décembre au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et puis ensuite, vous pourrez le découvrir les 14 et 15 décembre dans les théâtres de la ville de Luxembourg, du 8 au 27 janvier au théâtre Kléber-Mello à Reims, du 13 au 16 mars à la Criée à Marseille, du 20 et 21 mars au théâtre de l'Archipel à Perpignan, 26 et 27 mars au théâtre de Caen, 4 et 5 avril à Hérault Culture dans le domaine départemental de Bézan à Béziers, puis 13 et 14 avril au théâtre Louis Aragon à Tremblay en France. Bon, on a pris beaucoup de temps. On va aller plus vite, peut-être, pour la suite, mais il faut garder du temps pour le petit salon, vous savez, Lucile. Paradoxal de et par Marien Tillier, pardon, le coup de cœur de Lily Blum pour Sylvia Costa, le petit salon, voilà ce qui est à suivre dans la dispute.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite donc de cette dispute théâtre en nous rendant une nouvelle fois au théâtre de Belleville pour y découvrir Paradoxal de et par Marien Tillet, créé dans le Hof d'Avignon en 2016, un spectacle d'un genre hybride, on va en parler, entre le stand-up et la fable, entre la conférence et le récit policier paranoïaque.
A priori, personne ne nous servit ce matin en se disant « j'ai beaucoup trop dormi, il est hors de question que je reste une seconde de plus sous cette couverture, personne ». Et c'est bien l'ironie avec le sommeil, c'est qu'autant on peut prendre du retard que de l'avance, on ne peut pas. Le mieux que l'on puisse faire avec le sommeil, finalement, c'est de mettre les compteurs à zéro. Zéro est la limite positive de sommeil que l'on peut stocker dans notre corps. Zéro. C'est décourageant. Et même quand on atteint zéro, ce qui est rare dans une vie d'adulte, le moindre changement de température, le moindre conjoint qui tire un peu trop sur la couverture, le moindre tracas familial, social, travail, et vous basculez dans la zone négative. Et la zone négative est infinie.
Mon responsable vient me dire que si je profite du travail pour régler mes soucis familiaux, il sera obligé de procéder à une retenue sur salaire. J'essaie d'expliquer à mes enfants que je ne peux pas continuer à discuter avec eux, mais à ce moment-là, il y a des tentacules qui sortent de leurs manches et qui m'enveloppent. Des clients qui sont arrivés après eux se plaignent de l'attente, comme s'ils ne voyaient pas ce qui m'arrive. Et dans la file, il y a vous, la professeure Planis, puis vous, madame Paulette, et même toi, Alexandre. Je sais que je suis en train de rêver, je le sais bien.
Marénine voudrait sortir de la pièce 316.
Lapin, entre rien.
Mais elle sent une présence derrière elle.
Mais je peux vous assurer que personne ne surveillait ce matin à zéro. Tout le monde surveillait à moins quelque chose. Il y en a même qui se sont dit en se levant, et peut-être à voix haute, vivement ce soir que je me recouche. Et on ne sait pas ce qui vous a pris. Il y a peut-être un collègue qui vous a dit, ah mais il y a un spectacle sur la fatigue, ça va te plaire, toi qui es fatigué. C'est toujours plaisir. Vous êtes laissé avoir et vous êtes là, vous êtes bloqué. Ça y est, il y en a qui dorment.
Voilà pour cet extrait de Paradoxal. Mais alors, ce n'est qu'une des couleurs, hein, j'ai annoncé spectacle hybride, je maintiens, qu'une des couleurs de ce spectacle, et ce n'est pas la plus prégnante, on va dire ça comme ça. Et si Lily Bloom commence à nous parler de Paradoxal, vous dormez bien, Lily?
Pas très bien. Mais, effectivement, alors c'est un spectacle surprenant, assez ébouriffant, effectivement, comme on l'a entendu. Cela commence comme pratiquement du stand-up. Mmh. C'est très étonnant, comme s'il nous mettait en confiance, voire même il fait quelque chose qui normalement, et là je pense, la chose qui m'irrite le plus au théâtre, c'est nous faire chanter, nous faire collaborer.
Vous avez chanté?
À demi-mot, voilà. Mais il y a quelque chose, je me suis dit, tiens, il a réussi à me rendre sympathique cet acte qui normalement est vraiment quelque chose qui peut me faire sortir d'un théâtre. Ça m'exaspère quand on fait ça, quand on rallume les lumières, quand on, voilà. C'est vraiment très dérangeant pour moi. Et là, il a un charme vraiment particulier de conteur, cet acteur. Donc, il s'appelle
Marien Tillet.
Il a un vrai talent qui va se déployer, un talent de conteur extraordinaire pour après nous amener dans les rêves, même pour faire le conférencier. Il a vraiment un talent. Et donc, on se laisse emporter par son récit et après donc ce préambule plutôt malin où il nous met à l'aise presque avec nos attentes sur le spectacle, cette idée que l'on pourrait sortir, il nous familiarise avec son sujet et puis d'un seul coup arrive un spectacle qui est presque monté comme un film avec des cuts. Et après on ne sait plus à par moment comment se déroule, enfin comment il a consolider cette structure. Et moi, ce qui m'a le plus frappé dans l'entreprise, et ce qui m'a plu, c'est qu'avec une économie de moyens, des bouteilles d'eau, une table, quelques lumières, il réussit vraiment à nous amener dans un spectacle de l'étrange, dans le thriller scientifique, comme il l'appelle, mais toujours avec humour. Et voilà, à nous apprendre beaucoup de choses sur le sommeil. Enfin, voilà, il nous entraîne dans un théâtre qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec vraiment, mais presque rien. Et donc, voilà, c'est ça, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Avec quelques bouteilles dont il fait résonner les petits bruits, les scratchs, voilà, il invente tout un univers sonore formidable. Et puis de jouer sur cette question de la frontière entre réalité et rêve au théâtre, bah c'est forcément malin, il en profite avec, voilà, je pourrais pas dévoiler la fin, mais jouer avec cette notion de est-ce que ça joue ou pas, et s'amuser de ce spectateur, il parle pour faire des rêves lucides, il faut accepter l'idée que le bizarre est normal. Donc il dit, voilà, tirez sur votre doigt, et quand vous voyez quelque chose d'étrange, dites c'est bizarre, mais c'est normal. Et c'est vrai qu'au théâtre, quand on arrive, on peut effectivement voir un tigre, comme il le dit, arriver. On se dira c'est un tigre dompter. Si l'acteur se blesse, il y a toujours quelques secondes où on se dit c'est fait exprès, c'est pas fait exprès, tu crois qu'il est vraiment mort ou pas. Enfin voilà, on est enclin en tout cas à accepter toutes les bizarreries du monde, et c'est assez joyeux. Et voilà, l'écho, la résonance entre les deux est assez finement amenée, je trouve.
Alors vous avez évoqué la question du rêveur lucide. Est-ce qu'on rentre dans ces considérations, Lucile Como, pour parler un peu plus de spectacle? Vous avez,
oui, en fait, c'est donc un homme seul qui joue plusieurs personnages. Et le personnage de départ, c'est une jeune fille qui rentre dans une clinique, enfin qui va faire partie d'un panel de rêveurs lucides pour y participer à une expérience qui est chapeautée par un grand clinicien. Donc il joue à la fois le clinicien, les rêveurs lucides qui sont autour d'elle. Et donc être rêveur lucide, il y a plusieurs stades. Mais en gros, ça veut dire qu'on est capable, plus ou moins,
selon les stades,
puissamment, voilà, de contrôler ses rêves. Donc de, par exemple, se souvenir d'un rêve et le faire se poursuivre la nuit qui suit.
Et être agissant à l'intérieur du
voilà,
rêve.
Voilà, exactement. Donc c'est bon, de toute façon passionnant comme sujet. Et sur la scène de théâtre, moi je trouve qu'il en fait quelque chose de vraiment très réussi. En fait, c'est un côté spectacle de petit malin, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire, en effet, il est dans une économie de moyens très réduite et tout fonctionne assez bien. Il y a beaucoup de magie, parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais il y a à la fois donc du stand-up, de la conférence, mais aussi des effets de magie qui, moi je trouve, ont vraiment très bien fonctionné, notamment avec ces bouteilles d'eau. Vous parliez des bouteilles d'eau qui apparaissent, elles sont de plus en plus nombreuses. Moi, au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, mais il n'y avait que 2 bouteilles d'eau sur sa table, là il y en a 8, on ne sait vraiment pas comment elles apparaissent, qui figurent des personnages, qui servent à faire des percussions. Voilà, c'est type, l'exemple de la bouteille d'eau pour représenter un peu la question de l'économie de moyens. Et le sommeil est une parfaite matière à fiction, c'est-à-dire c'est une matière à récit, puisque le sommeil, c'est les rêves, donc on raconte ses rêves. Le sommeil, c'est un moyen de brouiller les limites, donc du coup, il y a des effets de mise en abîme, de structures dans les structures, de petites boîtes dans les boîtes, de rêves dans les rêves dans les rêves, qui en effet perdent le spectateur, et on est bien content de se perdre dans cette espèce de méandre. À la fin, on ne sait plus du tout où on en est. Et c'est aussi une matière à récit, même littéraire. Il y a un des cauchemars récurrents, par exemple, qui revient, qui est un cauchemar de pension catholique en Irlande. Au début, ça fait un peu rire, parce que on ne sait pas ce que ça vient faire là. Et à ces moments-là, la lumière est quand même particulièrement angoissante, et il réussit à créer des effets de frayeur assez saisissants. Moi, j'ai vraiment eu peur pendant le spectacle, comme devant un film d'horreur ou un film de Stephen King, un livre de Stephen King, que sais-je. Donc, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai beaucoup ri, j'ai eu peur. Enfin, je trouve que c'est un spectacle à effet qui fonctionne vraiment de bout en bout.
René Solis, à présent sur Paradoxal, à l'affiche du Théâtre de Belleville.
Alors, je voudrais contredire et qu'on se dispute, mais moi aussi j'ai marché, hein, je me suis fait embarquer, et très bien.
Ils sont bons spectateurs ce soir,
oui,
c'est la
bonne
temps, semaine, c'est la semaine de la bonté.
Mais mais il est vraiment bien, son spectacle, c'est un hypnotiseur, hein. Il a une façon d'embarquer son monde et puis effectivement de changer de registre. Et hypnotiseur au sens, moi il m'a vraiment hypnotisé, je me suis vraiment endormi à certains moments, mais endormi de façon active, c'est-à-dire j'avais l'impression de participer au spectacle. J'ai eu des moments où parce qu'il a une voix qui berce, et à certains moments, j'avais le sentiment qu'il était en train volontairement près de m'endormir, et je me réveillais tout de suite après, mais je me réveillais éventuellement dans une autre dimension et dans une autre histoire. Donc cette façon de effectivement d'enchaîner des histoires, on a l'impression qu'il y a un fil et on le suit parce qu'il est là, il nous guide et tout, et en fait on se rend compte qu'il nous perd tout le temps. Ça commence, il faut le dire aussi, après le premier récit est l'histoire non pas d'un rêve, mais d'une insomnie, puisque c'est l'histoire de la jeune femme qui se réveille, enfin plutôt qui ne peut pas dormir parce qu'au-dessus d'elle, à 14h du matin, sa voisine met des talons et lui tape sur la tête, et donc elle se décide à monter, donc elle réfléchit aux mots qu'elle va lui glisser sous la porte, et elle trouve la meilleure façon de le dire. Elle sort de chez elle, elle glisse le mot sous la porte,
points.
Et 3 petits points. Et on se rend compte à ce moment-là que cette insomnie est peut-être un rêve, en fait, et que, donc, et on rebascule immédiatement dans ces poupées russes dont vous parliez. Non, il est bon, il est vraiment très très bon, oui.
Bon, je vais pas être le méchant de service ce soir. J'ai trouvé virtuose, j'ai trouvé effectivement générateur d'empathie, mais comme j'ai envie quand même d'être un petit peu méchant quand même. C'est pas un peu trop long quand même, le spectacle?
Non,
c'était tellement bien. On a ri, on a pleuré, on a eu peur. J'ai trouvé Voilà, j'ai trouvé ça très bien sur j'ai peut-être pas assez d'aller-retour justement entre ce départ en stand-up et puis la façon dont comme il nous habitue à des ruptures de ton, des ruptures de type de narration, j'en attendais peut-être encore plus. Et du coup, comme l'histoire centrale est traitée quand même sur un temps assez long et on voit un peu quand même où elle va. Voilà, j'essaye de remettre un petit peu de dissensus dans cette émission, Lily Bloom.
Oui, non, moi c'est peut-être. Alors, si je devais mettre un bémol, c'est effectivement cette partie-là en chef conférencier, enfin le côté où il surjoue un petit peu l'aspect comique du groupe. Et bon, forcément, il est tout seul et ça a une limite tout de même, même aussi virtuose qu'il puisse être. Il y a quand même une limite avec tous ces personnages, la récurrence de l'ado qui balbutie des trucs sur des zombies. Voilà, cette partie-là m'a moins intéressée parce que j'avais envie qu'il me redonne des informations sur le rêve. J'aurais pu tout à fait être beaucoup plus nourrie. Ça m'a donné envie de lire Alfred Maury. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui était très intéressant et finalement, il peut nous faire un petit peu plus confiance sur cet aspect-là. Et voilà, nous amener un petit peu plus loin là-dessus plutôt que de surjouer de la comédie qui était un petit peu moins de qualité que le reste.
Pas de réserve, Lucille Como.
Non, moi, par exemple, quand il fait le médecin, ça me faisait vraiment énormément rire. Donc, du coup, je voyais un peu du stand-up partout parce que dès qu'il prenait la posture de médecin, ça me faisait beaucoup rire. Je le trouvais très drôle.
Zéro réserve.
Non, je marche à fond.
Moi. Bon, René non plus, comme ça, on aura du temps pour le petit salon. Non, mais il est fort hein, parce qu'il l'a écrit, il l'interprète, il le met en scène, ce spectacle paradoxal, Marien Tillet. C'est jusqu'au 30 novembre. Au théâtre de Belleville, où nous sommes déjà rendus il y a 2 semaines, je crois, maintenant. Et puis, alors, il y a une date pour l'instant que je vois, le 6 avril, à la marge de Lieu Saint, dans le cadre du festival Solo. Nul doute, en tout cas, je l'espère pour lui, que d'autres dates vont arriver pour ce spectacle qui s'intitule donc Paradoxal. C'est donc le moment du coup de cœur de Lily Bloom pour Dans le pays d'hiver de Sylvia Costa, qu'on peut voir jusqu'à cette fin de semaine, 24 novembre, à la MC 93 de Bobigny.
Questi mortali sono proprio divertenti. Dappertutto dove splendono fatiche e parole, nasce un ritmo, un senso, un riposo. Io non so come, ma quello che ci esce dalle mani è sempre ambiguo. È una scure a due tagli che ne fa scorrere di sangue innocente. Ma che vuoi che gli diamo?
Dans le pays d'hiver de Sylvia Costa. Mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle, Lily Bloom?
Alors, c'est justement sa singularité qui m'amène à en faire un coup de cœur. Il faut dire que donc Sylvia Costa est une jeune artiste metteuse en scène qui s'engage vraiment dans des chemins peu empruntés. Elle a un amour pour les textes un peu oubliés, passés de mode, perdus. Et comme elle fonctionne un peu comme une archéologue. Elle a notamment monté Poil de carotte de Jules Renard, qui avait été presque oublié. Elle s'est intéressée à un auteur italien, Edmondo De Amicis, que personne presque ne connaît. Et donc, dans ce spectacle-là, elle nous invite, dans un geste théâtral radical, à une étonnante plongée dans la mythologie, avec une adaptation très libre de Dialogue avec Leco, de Cesare Pavese. Et donc, son spectacle, c'est une succession de tableaux vivants, de métamorphoses, comme si on rentrait dans ces visions très radicales, entre théâtre et art visuel. C'est basé sur 6 des 27 textes de Dialogue avec Leco, donc le mystère, la mer, la bête, l'homme-loup, le déluge et les dieux. Et cela aborde des questions relatives au fondement de l'humanité, la naissance. Alors à chaque fois avec le tout et son contraire, c'est la naissance et la mort, l'exploit et la faute, la culture et l'animalité, la liberté contre la dépendance aux dieux. Et elle fait dialoguer donc à la fois cette poésie inattendue, qui est comme une pulsation cardiaque, avec une gestuelle extrêmement maîtrisée, contrainte. On a parfois même l'impression, vous savez, de voir une danse de tai chi très contenue pendant une heure, une musique qui invite à la méditation, un travail plastique sur des sculptures qui se métamorphosent et qui deviennent par moments le moteur des métamorphoses du spectacle. Et donc, il faut préciser que ce dialogue avec Le Caux, il a une place singulière dans l'œuvre de Cesare Pavese. C'est un livre qu'il a emporté avec lui pour se suicider et sur lesquels il a écrit, entre guillemets, voilà, ses derniers mots, donc il a une valeur de testament. Et c'est étonnant parce que c'est donc, on fait dialoguer des déesses qui regardent le monde, on sent cette lassitude, elles aimeraient connaître la mort, descendre parmi les humains pour nous comprendre, et à la fois, lui a cette, on sent cette lassitude de cet humain à travers ce dialogue des déesses qui regardent le monde et qui aspirent à la mort. Donc il y a cette double couche dont elle nous fait part et ce double mystère qui se ressent et qu'elle nous amène à regarder avec son angle. Et il y a quelque chose, voilà, on ne peut pas attribuer à cet auteur du hasard d'avoir gribouillé là-dessus. Il y a un moment où elle est allongée sur la scène et on pense à ses premiers mots, à ces mots qu'il avait écrits juste avant de mourir. « Je pardonne à tout le monde et je demande pardon à tout le monde. Ça va, pas trop de commérages. » Enfin voilà, il y a cette idée d'un acte. Donc c'est une femme, vraiment une metteuse en scène, une artiste qui a vraiment une foi hallucinante dans la capacité des spectateurs, et elle nous invite, enfin voilà, la capacité d'imaginaire, l'exigence. Moi, je veux parler de son spectacle là parce que c'est un objet scénique, un ovni qui vient chercher en nous les sources archaïques, inconnues. Il y a une sensation de voir une cérémonie d'une religion syncrétique. Enfin, il y a quelque chose avec à la fois une religion qu'on connaîtrait parfaitement et des religions qu'on ne connaîtrait absolument pas. Et donc voilà, elle nous invite à un rituel théâtral magique avec ses actrices. Totalement des déesses comme ça qui disent le texte, et voilà, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Elle nous invite sur le mont Olympe et on n'a pas souvent l'occasion d'aller sur le mont Olympe pendant 1h15, donc je vous invite à y aller avec elle. Voilà.
Le mont Olympe se trouve à Bobigny en ce moment, à la MC 93, dans le Pays d'hiver de Sylvia Costa. On peut le voir jusqu'au 24 novembre, et puis d'autres dates à venir, 29 et 30 janvier à la Comédie de Reims.
Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous?
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore? Dites-moi quelle bizarrerie!
Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher.
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher.
Voilà, un petit salon déjà très, très, très rempli, Lucile Como, avec ce soir la question classique contre... ou versus, puisque vous m'avez écrit, contemporain.
Oui, il y a quelques jours, le Théâtre National de Strasbourg fêtait ses 50 ans. Pour l'occasion, le ministre de la Culture, Franck Riester, tout fraîchement nommé, avait fait le déplacement. Il a félicité Stanislas Nordet pour son travail exemplaire et affirmé son goût pour les écritures contemporaines, observant, je cite, que les classiques de demain sont les textes qui s'écrivent aujourd'hui. Quelques heures plus tard, Sonia Chiambretto et Johan Tomrel, deux auteurs dramatiques, distribuèrent au public une série de questions, les premières d'un vaste questionnaire destiné à soutenir un grand chantier de réflexion à mener sur le théâtre français. Parmi ces trois questions, celle que je vous retourne aujourd'hui, donc, pensez-vous qu'on aura encore envie de jouer le misanthrope en 2068? La question du classique était donc au cœur de cet anniversaire strasbourgeois, mais aussi celle du texte de théâtre, plus largement, faisant écho à un autre événement récent, le festival Actoral, qui se déroulait à Marseille en octobre dernier, festival dédié aux écrivains de la scène. Un article paru dans Le Monde donnait à cette occasion à entendre les propos de ces auteurs souvent méconnus qui affirment que contrairement à ce que les institutions peuvent laisser entrevoir, l'écriture théâtrale en France est tout sauf moribonde. Les gens qui écrivent aujourd'hui pour la scène préfèrent d'ailleurs ce terme d'écrivain de scène dans la mesure où le texte n'est pas la seule forme qu'ils mettent en œuvre dans leur écriture et revendiquent un métier particulier bien ancré dans le spectacle vivant. Alors nonobstant la concomitance de ces deux événements, la question formulée avec cette histoire de misanthrope en 2068 est bizarrement posée. Elle induit dans ce contexte une forme de concurrence entre le classique au théâtre et le texte contemporain, et aussi introduit une temporalité étrange. Si le texte contemporain est le classique de demain, est-ce à dire que le classique d'hier tombe aux oubliettes? Est-ce que si on joue dans 50 ans, du Wajdi Mouawad ou du Lancelot Hamelin, est-ce que ce sera aux dépens de Racine et Corneille? Est-ce qu'il faut nécessairement que Molière laisse sa place pour que vive l'écriture dramatique? En réalité, la manière dont la question est posée interroge aussi l'évolution des goûts du public. Et là, j'avoue que je ne vois pas bien ce qui peut se passer dans les 50 ans à venir qui puisse nous couper l'envie de voir le Misanthrope. Force est de constater, par ailleurs, empiriquement, que le succès des pièces de Molière ne se démentit pas. Il y a quelques semaines, les couloirs du métro parisien se sont vus tapisser de grandes affiches avec la tête de Lambert Wilson, affublée d'une perruque noire outrageusement bouclée, annonçant en lettres gigantesques un Misanthrope mis en scène par Peter Stein au printemps prochain. Alors je vais changer un peu la question. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie de voir le Misanthrope en 2068?
On aurait envie, mais on ne sera pas là, pour la plupart d'entre nous. Pour quelques-uns d'entre nous peut-être. Pas quand même. René Solis, en 2068, vous irez voir le Misanthrope avec Lambert Wilson. Avec le petit-fils, logiquement, de Lambert Wilson. Avec c'est une dynastie, les Wilson.
Oui, moi, je vois toujours le Misanthrope avec un plaisir qui ne s'épuise jamais. Non, je pense que la question, elle est peut-être tout simplement un peu maladroite. Je dirais ça comme ça, parce que je pense pas que ni Stanislas Nordet, ni... vous avez cité Sonia Cambretto, par exemple, pense que on aura en 2068, on ne jouera plus le Misanthrope. Je pense pas qu'il pense ça. Donc j'ai l'impression que ça, cette formulation de la question, elle est un peu, voilà, peut-être volonté de s'adresser à des spectateurs qui sont pas forcément des habitués de théâtre. Je verrais plutôt ça comme un clin d'œil ou comme une petite pique, une petite provocation. Donc je suis pas sûr qu'elle soit extrêmement pertinente. Donc j'ai beaucoup de mal à imaginer que, on a tous du mal, connaissant un petit peu l'histoire du théâtre, effectivement, et cette histoire des classiques et des contemporains, qu'on constate que quand même les grands classiques sont toujours aussi des grands contemporains, et évidemment Molière, évidemment les Grecs, et que quelle que soit l'évolution de du monde, et Dieu sait qu'il y en a et qu'il y en aura, je ne crois pas que le théâtre soit un art moribond. Donc oui, je pense qu'on jouera Molière en 2068 et qu'il y aura du monde pour trouver ça pertinent et d'actualité.
Alors, peut-être que ce qu'il faut peut-être entendre autrement, d'abord, ce sera en 2066, le quatrième centenaire de la création du Misanthrope. S'il a duré 350 ans, 350, il peut être actif 400, sans nul doute, mais on peut prendre la question de l'autre côté en disant, effectivement, si des patrons de théâtre et de grands théâtres, parce que les plus petits le font plus régulièrement, ne prennent pas position pour défendre des spectacles avec des auteurs vivants, on n'aura plus que des classiques, oui, pour le coup, et des classiques anciens. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre?
Je pense que c'est en effet une forme de provocation pour provoquer un volontarisme, peut-être pas des quotas, mais en tout cas, il y a une volonté d'imposer un répertoire plus contemporain. Stanislas Nordet, il le revendique de toute façon dans son théâtre. Oui, donc je pense que c'est à ça que ça fait référence.
Mais
je trouve ça bizarre de mettre en concurrence les deux
répertoires. C'est le credo de Jean-Michel Ribes au Rond-Point depuis maintenant plus de 10 ans, et chaque fois il dit toujours, rien ne m'agace plus quand on me dit Shakespeare, notre contemporain. Et donc le spectacle, le théâtre du Rond-Point ne met à l'affiche depuis 10 ans dans ces trois salles que des auteurs vivants. Lily Blum, est-ce que vous jouerez vous-même le Misanthrope en 2068?
J'espère, mon Dieu, je ne veux même pas imaginer quel âge j'aurai. Mais non, moi, ce qui
m'a... Je n'ai pas d'imagination, mais de calcul.
Oui, je ne préfère pas. Je préfère le laisser dans le domaine de l'imaginaire, là, pour l'instant.
D'accord.
Et non, ça m'a un petit peu, effectivement, piqué, cette question. Parce que, et le choix même du Misanthrope, parce que... Bon, si on devait faire les juges, comme pendant les Dionysies, et décider de quelles pièces auront droit de passer à la postérité, et lesquelles doivent être brûlées immédiatement pour faire place aux jeunes, on va dire.
On aura faux.
Non, mais il y a cette idée, bon, alors pourquoi pas, peut-être celles qui sont plus vraiment rattachées aux mœurs d'une époque, ou par exemple les Fourberies de Scapa, si on devait en choisir une. Mais le Misanthrope, ça m'a vraiment véritablement affecté, parce que c'est, non, mais pour demain, parce que c'est quand même le chef-d'œuvre de Molière, intemporel, par essence, ça m'a fait repenser.
Le Tartuffe, c'est pas mal non plus, hein.
Oui, mais pour moi...
C'est aussi intemporel.
Oui, effectivement. Mais je ne sais pas, le misanthrope, ça bascule. C'est Musset qui disait au moment... Je ne sais plus exactement la citation exacte, mais au moment où on vient de rire, il faudrait se mettre à pleurer. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. J'adore le point qu'atteint cette pièce-là et la justesse du propos et qu'on ne rit que de la forme. Enfin, bon, voilà, il y a quelque chose sur cette pièce-là spécifiquement que je trouve intemporel. Donc ça m'a gênée, ça m'a fait un petit peu penser à la sortie malheureuse de Sarkozy sur la princesse de Clèves. Enfin, voilà, il y a quelque chose de... je ne sais pas, peut-être de réactionnaire chez moi, mais qui m'a un peu piqué dans cette question-là. Comme si je ne crois pas qu'on doit faire de la place. Enfin, comme si c'est pas un champ fini avec des limites. Le théâtre, tout le monde peut exister. Les choix se font par l'actualité, par les questionnements du temps. Je ne pense pas que que Shakespeare prenne la place d'un auteur contemporain. Voilà, je suis pas certaine. Il y a des théâtres qui en font leur politique et c'est très bien et ça coexiste avec ces textes-là, mais je pense que sans eux, il n'y aurait pas de dialogue possible et de compréhension des textes contemporains.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même cette discussion la semaine dernière ou la précédente concernant l'école des femmes de Molière mise en scène en ce moment par Stéphane Brunschweig au théâtre de l'Odéon, que moi j'ai personnellement beaucoup apprécié comme lecture à la fois simple et en même temps extrêmement actuelle, là où mes camarades de jeu, pour la plupart, disaient qu'il n'y avait pas de point de vue. Alors pourquoi on monte Molière s'il n'y a pas de point de vue? Enfin, il y a un texte, il me semble que par ailleurs, il y a un point de vue. Cette question, elle revient sans cesse, Lucile Gaumont.
Oui, c'est l'exigence de frotter toujours le classique à des enjeux contemporains, esthétiques ou idéologiques, et que du coup, un texte contemporain, lui, n'a pas à s'affronter à... Je pense que du coup, c'est peut-être même plus difficile aujourd'hui pour un metteur en scène de choisir un Molière plutôt que de choisir un texte de...
Oui, parce qu'on attend de toute façon au tournant qu'il fasse, non ?
Je pense, oui. Je pense que c'est plus... C'est
qu'il
plus
soit joué en costume ou en jean, on lui dira mais pourquoi les costumes ou pourquoi le jean ? Il y a quand même cette chose-là, René Solis.
Oui, non, et puis je pense à ce qu'on dit sur le fait qu'il y a les auteurs contemporains ne trouvent pas des théâtres où jouer, des endroits où publier, il faut relativiser. Ça fait très longtemps qu'on dit ça et ça fait aussi très longtemps que justement, je trouve que on joue quand même beaucoup et on publie beaucoup d'auteurs contemporains. La France est un des pays en Europe où on publie le plus de nouveaux auteurs.
On a des vrais éditeurs, on a l'art, on a Actes Sud Papier, on a les Solidaires Intempestifs, on a...
Il y a des éditeurs, il y a des théâtres, il y a le Rond-Point, il y a le théâtre de Strasbourg, il y a la Colline qui a beaucoup dans le contemporain.
C'est l'ADN,
donc,
oui.
On peut pas dire que le théâtre contemporain et que les nouveaux auteurs soient sinistrés, je crois pas. Après, il y a la question de la qualité, ce qui est autre chose, et de qu'est-ce qu'on joue, pourquoi on joue, des intérêts économiques qu'il peut y avoir, tout ça. Enfin, l'écriture contemporaine, elle est évidemment, je crois pas, menacée. C'est pas en ces termes-là que ça se pose.
Puis parlant de misanthrope, moi j'ai deux souvenirs des dernières années, enfin ça commence à dater. Une version mise en scène par Sivadier, Jean-François de son prénom, avec Nicolas Bouchaud dans un rôle principal. Et moi j'avais été, c'était un des spectacles signés Sivadier que j'avais le plus apprécié, parce qu'il y avait une façon de rendre Alexandrin tellement présent, qui était vraiment très impressionnant. Et il y avait... comme souvent, et c'est tant mieux dans ces cas-là, beaucoup de scolaires qui se rendaient compte que tout d'un coup, Molière, ça leur parlait directement. Et ça, c'est quand même très, très agréable. Et puis, d'une toute autre façon, je crois que c'est la première fois que j'ai vu une mise en scène d'Ivo Van Hove. C'était une dizaine d'années, je pense, ou un peu plus, aux ateliers Berthier. Donc, ça jouait en allemand. Donc, le rapport au texte n'était pas le même. C'était quand même Lars Eidinger qui était là aussi. Donc, ça arrange les choses. Mais pour dire que finalement, le Sivadier était monté de façon assez classique, si je puis dire, mais il jouait à l'heure et au jour vraiment de la représentation. Il y avait quelque chose de très présent, et que, parce que c'est une autre chose dont on pourrait parler, des textes dans les traductions, nous on entend bien Shakespeare en français, et d'avoir des misanthropes qui vivent dans d'autres langues, je trouvais ça aussi assez merveilleux que ça existe comme cela. Lucile Gaumont ?
Oui, il y a un tiers-actant qui n'est pas beaucoup évoqué dans les articles en question, c'est le dramaturge, qui est quand même une position dont en France on a du mal à instituer, mais qui est précisément ce maillon peut-être un peu manquant dans la dialectique entre le contemporain et le classique. C'est celui qui adapte, enfin travaille le matériau textuel pour l'amener sur la scène, et c'est vrai que je pense que c'est très français, ce questionnement entre le contemporain, enfin les écritures d'aujourd'hui et les écritures d'hier, parce que manque peut-être une reconnaissance pour ce maillon central-là.
dramaturge, pas dramaturge. C'est vrai que c'est pas la culture française.
Non, donc oui, c'est vrai, mais je sais pas si ça, si c'est ça. Non, je surtout encore une fois, il y a problème de qualité des textes et de voilà que tout simplement il y a pas mal de textes contemporains qui sont pas forcément montés pour des bonnes raisons. Et je ne doute pas qu'il y a des textes intéressants qui eux restent dans les tiroirs. Et donc c'est plutôt là qu'est le problème.
Et Blum, pas mieux?
Non, ça m'a déclenché une rêverie d'imaginer que ça pouvait aussi être monté pour de mauvaises raisons ou mal monté en 2068.
Ah oui, il y aura toujours de mauvaises représentations du misanthrope
dans 50 ans. Avec un angle complètement absurde sur le misanthrope.
Il y aura toujours des très mauvais classiques, ça, malheureusement.
Et des perruques.
C'est sûr.
Bon,
et des perruques.
Si mon calcul est bon, ce sera la 58e saison de la dispute. donc nous parlerons, je l'annonce déjà, de plusieurs versions du misanthrope dans cette saison-là, j'en suis certain. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, on est encore dans les calculs d'âge, hein, pardon pour ces petits rires qui sortent, voilà. C'est Sarah Dion qui nous a rejoint, qui elle pourra très largement jouer à la misanthrope en 2068, c'est la plus jeune d'entre nous. Mais ce soir, c'est pas pour donner votre âge que vous êtes là, mais pour rappeler d'abord la question du jeu de vendredi soir et donner sa réponse, Sarah.
Combien d'heures dure l'intégrale de la série cinéma de Ryusuke Hamaguchi Senses?
Et la réponse?
La réponse est 5.
On fait gagner ce soir des invitations pour une exposition qui se tient à la Cité de l'Architecture à Paris jusqu'au 11 mars. Son titre, L'art du chantier, construire et démolir du 16e au 21e siècle. Quelle est la question?
À l'occasion de quel événement le palais de Chaillot a-t-il été construit?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Alors oui, ça ne vous dérange pas que je fasse la désannonce de cette émission? Alors, toutes les informations concernant cette émission sont totalement dissipées. À retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et écouter ces rires qui fusent. Et vous abonner au podcast de la dispute. Rendez-vous demain à 19h, dispute musique. Je serai en compagnie de Mathilde Serrel, Christophe Comte et Olivier Lame. Sur nos platines, trois albums de femmes fortes. El Mal Querer de Rosalia. Connard, non, on prononce Ronard, de Dina Abdelwahed. Et Honey de Robin. Il y aura un coup de cœur de Mathilde Serrel pour Not Easy to Cook, ça c'était de l'album de Cannibal.